chers auditeurs de Radio Courageuse, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir. Bienvenue à tous les auditeurs en ce libre journal des amitiés françaises. Comme à l'habitude, 3 heures d'émission de partie. Nous avons le plaisir tout d'abord de recevoir Radhika Adnani, qui est écrivain islamologue, à l'occasion de la publication de son livre « Islam, quel problème, les défis de la réforme ?» C'est le titre d'ailleurs de l'émission « Les défis de la réforme de l'islam ». Et à 19h30, nous recevons Patrice Bouchet, qui est astrophysicien, qui vient de publier un livre de souvenirs de ses jeunes années au Chili, dans un observatoire international. Il vient aussi nous parler d'astronomie. Je ne crois pas que nous ayons de standard. Et je vous propose, chers auditeurs, de nous envoyer vos remarques, vos questions par courrier électronique. Nous serons ravis de les proposer à notre invité, naturellement. Je rappelle l'adresse internet de la radio. C'est courtoisie@rc.fr. courtoisie@rc.fr. N'hésitez surtout pas. Nous abordons donc maintenant la première partie de cette émission. Comment expliquer le retard du développement de nombreux pays où l'islam est religion officielle et où la charia fait la loi? Comment expliquer l'inadaptation de l'islam au monde contemporain, pire parfois son refus d'évoluer vers le respect de la dignité de chacun, et ce, de manière égale et universelle. Ainsi, de l'infériorité du statut des femmes, et puis le rejet aussi de la liberté de conscience, mais encore l'appel régulier à la violence contre les mécréants. Il faut constater que bien des versets du Coran justifient, voire recommandent ces attitudes, mais d'autres non. Alors que croire? Qui croire? D'où vient cette radicalité de l'islam qui se manifeste dans ces courants majoritaires, conservateurs et littéralistes, qui empêchent ou qui nuisent à toute évolution et adaptation aux cultures, notamment des pays actuels, qui est un problème très, très actuel? S'agit-il là d'une fatalité, ou un islam réformé par la pensée et la raison est-il envisageable? Est-ce possible? Ce sont des questions graves qui nous concernent très directement par la présence de millions de musulmans en France, dont ce sont les sondages qui le disent. Il ne s'agit pas du tout d'une prise de position subjective, personnelle, mais la majorité exprime dans les sondages justement le refus des lois et de la culture de leur pays d'accueil, plaçant en priorité la charia d'une religion qui semble figée depuis un millénaire. Ce sont des sujets qui sont graves, et nous avons le plaisir de recevoir Radhika Adnani pour traiter avec elle de ces sujets, grâce à son livre qu'elle publie aux éditions UP Bicher, ça se dit comme ça. Et le titre du livre, c'est donc « Islam, quel problème? Les défis de la réforme ». Radhika Adnani, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être ce soir avec nous en direct. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir. C'est la deuxième fois, parce que nous avions déjà eu le plaisir de vous recevoir sur un de vos précédents ouvrages, « Sortir de l'islamisme », que vous avez publié aux éditions Éric Bonnet en décembre 2024. Je vous présente à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes philosophe, islamologue. Vous avez commencé votre carrière comme professeur de philosophie, car vos études ont été des études de philosophie et de théologie, que vous avez d'ailleurs effectuées dans des conditions difficile, celle des années noires hein, en Algérie. Vous avez un parcours et une expérience qui sont à la fois originales et riches. Vous avez donc, comme je le disais, enseigné jusqu'en 2005 et après, eh bien, vous êtes entièrement consacré à la recherche qui nouveau vos ouvrages. 2014, pendant 2 ans, vous avez donné des conférences à l'Université populaire de Caen sur le thème « Penser l'islam ».
Oui.
Ça a dû être une expérience intéressante, j'imagine.
Oui.
Pardon, vous allez nous en parler naturellement. De 2015 à 2017, vous avez participé aux travaux du séminaire « État, religion, laïcité, les nouveaux fondamentalistes ». Et ça, c'était organisé et dirigé par le Collège des Bernardins. Ce qui montre aussi la multiplicité, la diversité de vos relations et des personnes, naturellement, qui s'intéressent à votre travail. En 2016, avec le ministère de la Justice et de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, vous avez collaboré avec eux jusqu'en 2018, vous êtes intervenu dans le cadre de la formation des professionnels qui s'occupent des jeunes radicalisés. J'aimerais bien vous poser d'ailleurs la question. Vous avez formé donc ces personnes qui s'occupent des jeunes radicalisés dans le but de les déradicaliser, naturellement.
Moi, j'ai participé
à la formation.
À la formation.
C'est ça, mais vous n'avez pas participé à ce qu'ont vécu ces personnes avec les radicalisés qui essaient de déradicaliser. Mmh. Vous connaissez, ça fonctionnait. Est-ce qu'ils arrivaient, ces formateurs, à déradicaliser ces jeunes?
Dans le livre que j'ai publié en 2024, je disais justement que cette façon de faire n'a pas permis à déradicaliser les jeunes radicalisés.
Donc
et j'ai donné mes propres explications.
Pour quelle raison ça n'a pas fonctionné d'après vous?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ces formateurs qui s'occupaient de ces jeunes radicalisés, eux-mêmes manquaient énormément de connaissances au sujet de l'islam et de la pensée musulmane. Alors que ce genre de fonction ou de travail nécessite une grande connaissance de l'islam et de la pensée musulmane et de l'histoire du monde musulman. C'est une des causes importantes de cet politique de déradicalisation.
Et c'est quelque chose qui est modifiable, qui est aménageable.
Et mon rôle, justement, c'était de les aider à avoir des moyens de connaissance.
C'est un échec, d'après vous. Est-ce que c'est quelque chose qui continue, d'ailleurs, ça peut être amélioré pour plus d'efficacité?
Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c'est qu'on ne peut pas comprendre un jeune radicalisé ni l'aider à sortir de ce problème si nous-mêmes, on n'a pas de moyens de connaissance nécessaires dans le domaine de l'islam et de la pensée musulmane. C'est très logique.
Et pourtant, on nous présente ces jeunes radicalisés comme étant des gens souvent très ignares de leur propre religion. C'est une présentation fausse, peut-être.
Oui, ils peuvent être très ignares, mais il y a ceux qui les radicalisent.
C'est ça, ceux qui les ont manipulés.
Oui, voilà, donc ceux-là, ils ont des moyens de connaissance, mais qu'ils utilisent dans leur propre projet politique. Donc, et le fait que ces formateurs n'ont pas ces moyens de connaissance, il est évident qu'ils ne peuvent pas aider ces jeunes.
C'est ça.
À s'en sortir, d'une part. Et il y a aussi le fait que beaucoup de ceux qui travaillaient dans ce domaine avaient répété la même idée, répété aux jeunes, par exemple, que le problème ne venait pas de l'islam ni de la pensée musulmane, mais seulement des musulmans qui ont mal compris l'islam. Là aussi, on ne peut pas aider vraiment les jeunes à se déradicaliser.
Et puis, précisons aussi qu'à partir de 2019, vous êtes membre du conseil scientifique du Centre d'études du fait religieux, où vous donnez régulièrement des conférences sur les thèmes de l'islamisme, de la réforme de l'islam, de la laïcité et de la philosophie en termes d'islam. Alors, vous avez publié un certain nombre de livres, je ne pourrais pas tous les citer. Alors, vous les avez rappelé qu'en 2024, en effet, nous avions eu le plaisir de vous recevoir pour cette publication « Sortir de l'islamisme » aux éditions Éric Bonnier. Signalons aussi aux éditions L'Aube, en 2019, « Laïcité et islam, mission possible ?» Point d'interrogation. La réponse, elle est
oui, mission possible. Oui, il y a une mission et elle peut, aujourd'hui, l'islam n'est pas séparé de sa dimension politique. Donc, il est incompatible avec la laïcité. Si la personne l'applique, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui se disent musulmans, mais qui ne sont pas pratiquants. Ceux-là, je pense, ne sont pas concernés par le problème. Mais on parle de l'islam. L'islam, si, tel qu'il est aujourd'hui, il est incompatible avec la laïcité. Mais si les musulmans réforment leur religion et décident de le séparer de sa dimension politique, à ce moment-là, la mission est possible.
On revient toujours à la question de la réforme de l'islam. Est-ce que c'est possible,
oui, bien
en fait,
sûr. Hein,
c'est la grande difficulté, c'est la grande question.
Si j'en parle, c'est que la réforme est possible.
Est possible, oui.
Bien sûr qu'elle est possible. En tout cas, intellectuellement parlant, religieusement parlant, elle est possible. Reste la volonté des musulmans. Veulent-ils mener cette réforme ou pas? Là, c'est une autre question.
Parce que vos propos sont très courageux et ils rejoignent aussi les propos d'un certain nombre d'autres spécialistes, un peu à votre exemple, qui prêchent pour une réforme de l'islam. Mais on a l'impression qu'on a affaire finalement à des voix qui, si elles sont très courageuses, sont aussi très isolées face à une masse imposante, même être de plus en plus radicalisée. On a évoqué les sondages en France, mais bon, on voit aussi les évolutions dans les pays du monde, et notamment avec un marqueur qui est le port du voile. Le port du voile, quand certains des enseignants, etc., dans différents pays, Pakistan et ailleurs, parlent des années 60-70, tel cas en Iran, par exemple, il y avait très peu de femmes voilées. Tant tout le monde, en Iran, c'est obligatoire. Mais ce professeur d'université qui déplorait qu'en l'espace de 20 ans, toutes ces étudiantes sont devenues voilées, ce qui n'était pas le cas avant.
Donc, oui, cela s'explique.
Donc, vous n'avez pas l'impression de parler comme un peu dans le désert?
Non, cela s'explique par les éléments historiques. Et donc, il faut revenir à l'histoire des sociétés musulmanes. Comment au 19e siècle et au début du 20e siècle, elles voulaient se moderniser, elles voulaient s'ouvrir sur la civilisation moderne, qu'ils considéraient à l'époque comme une civilisation humaine, donc une civilisation qui appartenait à toute l'humanité. Et ils ne voyaient pas d'inconvénient que les musulmans appartiennent à cette civilisation moderne. Donc il y a eu beaucoup de réformes dans tous les domaines d'ailleurs, même dans le domaine de littérature par exemple, mais donc dans tous les domaines. Et cela a engendré les réformes dont on parle, parmi elles le fait que les femmes se sont libérées du port du voile. Il y a eu toute une campagne de la part des intellectuels musulmans, hommes et femmes, pour lutter justement contre le port du voile, contre le fait que les femmes étaient enfermées à la maison. Et c'était un travail qui a été mené par les intellectuels musulmans ou de culture musulmane. Et après cela, après les années, disons les années 1950, au milieu du XXe siècle, ce mouvement a connu un échec. Ce sont les fondamentalistes et les conservateurs qui ont commencé à s'imposer. Et en s'imposant, ils ont pensé que la meilleure manière de s'imposer est d'imposer le voile à nouveau aux femmes, mais pas que le voile évidemment, mais oui, le voile fait partie.
Le voile n'est qu'un exemple. Hein.
Oui, il est un
naturellement,
exemple.
C'est l'histoire que vous racontez, Radhika Anani, dans ce livre chez UP Publisher. Islam, quel problème, les défis de la réforme. Effectivement, vous expliquez que par deux fois, la pensée et la raison étaient défaites. L'histoire de l'islam, une première fois au XIIe siècle, je crois, si je ne me trompe, et puis une deuxième fois au XXe siècle, vous venez de et l'évoquer. Avant que nous rentrions, on a commencé un peu à le faire, hein, dans votre livre, j'aimerais que vous nous, en quelques mots, que vous nous racontiez, s'il vous plaît, votre parcours, qui est très étonnant quand même, et d'une grande richesse. Est-ce que c'est un fil conducteur? Vous êtes né en Algérie, vous êtes kabyle, je crois, et puis vous êtes maintenant en France, une spécialiste reconnue de tous ces problèmes justement liés à la religion de l'islam, telle qu'on peut en tout cas les connaître, nous, en France. Alors, parlez-nous un petit peu de vous, ce qui vous a conduit, ce qui vous amène, voilà, maintenant être une philosophe en France.
En effet, je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai étudié en Algérie, j'ai travaillé en Algérie. Donc, je suis arrivée en France en 2011. Et j'ai mon premier livre consacré à l'islam, parce qu'avant, j'ai écrit des manuels de philosophie, mais le premier livre consacré à l'islam a été publié en 2011. Donc, je l'ai écrit quand je vivais en Algérie. Et j'écrivais aussi des articles de presse quand j'étais en Algérie. Et ce premier livre, d'ailleurs, je l'ai écrit en langue arabe. Parce que je voulais m'adresser directement aux musulmans arabophones. Et donc, mon parcours comme penseur de l'islam a commencé quand l'Algérie a été frappée de plein fouet par un islam radicaliste, un islam littéraliste, mais aussi meurtrier, car l'Algérie est passée par une dizaine d'années qui étaient des années très meurtrières. Et à cause de cet islam radicaliste et littéraliste et terroriste. Donc, au départ, je voulais tout simplement comprendre, comme beaucoup de gens, je me posais énormément de questions. Je voulais aussi me protéger contre ce discours moi-même, parce que ce discours s'imposait à nous partout. Il fallait avoir les moyens de connaissance. Je reviens toujours au moyen de connaissance pour me protéger contre ce discours. Mais le fait de m'intéresser à l'islam et à la pensée musulmane, la première des choses qui avait attiré mon attention, c'était le nombre de contradictions qui existaient dans le discours religieux et dans le discours religieux et dans l'islam tel qu'il le proposait. Et donc, je voulais comprendre d'où venaient ces contradictions et pourquoi la raison de l'être humain ne réagissait pas, ne se sentait pas gênée vis-à-vis de ces contradictions, comme si elle les acceptait sans aucune gêne. Et pour moi, il y avait un blocage de la pensée humaine, de la pensée rationnelle. Et le premier livre que j'ai écrit, et la question, comme le titre du livre le montre, c'était de comprendre quand ce blocage a commencé et pourquoi. Et donc, c'était un travail de recherche minutieux dans le domaine de la pensée musulmane pour comprendre le blocage de la pensée rationnelle et créatrice dans la pensée musulmane. Ce livre que nous présentons aujourd'hui, « Islam, quel problème? Les défis de la réforme », je l'ai écrit juste après les attentats de Charlie Hebdo en 2015, en France. Et parce qu'à ce moment-là, je vivais en France et j'écoutais les spécialistes qui intervenaient sur les chaînes de télé et sur les ondes de radio et qui expliquaient en général le problème du terrorisme et du fondamentalisme islamique par des problèmes socio-économiques. Il y avait cette tendance d'expliquer ce phénomène par des problèmes et des difficultés socio-économiques. Évidemment, pour moi, je ne nie pas totalement les problèmes socio-économiques, mais la première cause vient de la pensée musulmane et de l'islam tel qu'il est proposé par les musulmans, par le discours religieux musulman. Donc, j'ai écrit ce livre pour expliquer justement d'où viennent tous ces problèmes au sein de la pensée musulmane elle-même et la manière de construire l'islam après la mort du prophète par le discours religieux. Donc, c'est un travail au sein de la pensée musulmane. La pensée musulmane, je l'ai définie comme l'ensemble de ce que les musulmans ont construit, ont produit dans le domaine de la pensée, qui a pris l'islam comme objet d'étude et d'analyse et de réflexion. Donc, toute pensée qui prend l'islam comme objet d'étude, d'analyse et de réflexion, cette pensée appartient à ce qu'on appelle la pensée musulmane. Mais la pensée musulmane est une partie intégrante de l'islam. On ne peut pas séparer la pensée musulmane de l'islam. Donc, l'islam ne se limite pas au Coran. Et quand le prophète est mort, en 632, il a légué aux musulmans un livre, le Coran. Sa tradition n'était pas écrite. D'ailleurs, le Coran lui-même n'était pas encore transcrit. Mais néanmoins, il a légué aux musulmans un livre. Et à partir de ces livres, les musulmans ont construit toute une pensée qui a produit plusieurs islams. Donc cette pensée, qu'on appelle la pensée musulmane, a participé à la production de ces différents islams à partir d'un même Coran. Tous ces islams ont le Coran comme socle. Ils ont tous le même socle. Mais la construction, l'édifice, comme je l'appelle dans ce livre, l'édifice de ces islams ont été construits par les musulmans, donc par la pensée musulmane. C'est le produit de la pensée musulmane. Mais pour comprendre cette construction, il faut évidemment avoir des moyens de connaissance de cette pensée musulmane, connaître cette pensée musulmane, comment elle a commencé, quelles sont ses problématiques les plus importantes, comment, pourquoi ces problématiques ont émergé, comment les musulmans les ont... quelle est leur position vis-à-vis de ces problématiques. Et cela nous permettra évidemment de comprendre l'histoire de la pensée musulmane et de l'islam.
Mais ce que vous écrivez, dit Kadhani dans ce livre, Islam, quel problème, les défis de la réforme, c'est que la pensée musulmane remonte, commence avec le décès du prophète Mahomet en 632, parce que un certain nombre de questions se posaient après sa mort. Avant sa mort, il avait réponse, il était là pour répondre, et après sa mort, il n'est plus là. Et donc, le réflexe pour pouvoir répondre à ces questions, c'est d'aller chercher, en effet, les réponses dans les textes. Mais là, ce qu'on s'aperçoit à la lecture de votre ouvrage, eh bien, c'est qu'il y a plusieurs pensées, forcément, donc qui aboutissent à plusieurs courants. Et avec les courants qui s'appellent, nous allons en parler ensemble, c'est tout le déroulé de votre livre, le courant littéraliste, qui est le courant majoritaire, et un courant, au contraire, qui privilégie une autonomie de la réflexion par la raison et la pensée. Et tout ça, effectivement, allant aux mêmes sources, le Coran, sachant que, comme vous l'expliquez très bien dans le texte, eh bien, il y a quand même des passages du Coran qu'on peut interpréter d'une manière ou d'une autre, avec des résultats qui peuvent être très contradictoires. Ce qui explique la multiplicité, en fait, de ces courants. Alors ça, vous nous avez expliqué la genèse de votre livre, en quelque sorte, hein, ce qui l'amène, sa raison. Mais alors, comment l'avez-vous bâti, ce livre? Quel est son fil conducteur? Nous l'avons compris que, vous faites l'histoire de la pensée musulmane, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la pensée musulmane, etc. Vous en faites l'histoire, et vous en faites... une histoire, effectivement, qui est critique. Bon. Quel est le déroulé de votre livre?
Le livre, tout d'abord, comme vous venez de le dire, une des questions que je me suis posée, quand la pensée musulmane a-t-elle commencé? Après l'avoir définie, évidemment. Et logiquement, elle a commencé dès lors que le prophète est mort, étant donné que la pensée musulmane, c'est tout ce que la pensée de musulman a produit lorsqu'elle pense l'islam. Et elle a commencé à penser l'islam dès lors que le prophète n'était plus de ce monde. Car quand le prophète était vivant, c'est lui qui répondait à toutes les questions des musulmans. À l'instant même où il est mort, les musulmans se sont retrouvés face à de nouvelles questions, néanmoins, notamment la question de la succession du prophète lui-même, et donc la question politique, et il fallait qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses à leurs questions. Et c'est là où ils ont réalisé que beaucoup de questions, le prophète ne les a pas abordées, donc il n'a pas donné de réponse à ces questions, et le Coran lui-même ne répondait pas aussi à ces questions, car c'est des questions auxquelles qu'il n'a pas abordé tout simplement comme celle de la succession du prophète. Donc il fallait qu'eux-mêmes pensent à des à des solutions, à des réponses à ces questions. Donc c'est là où la pensée musulmane a commencé. Et comme je le dis dans le livre, dès lors que les musulmans ont commencé à utiliser leur propre pensée pour répondre à leurs questions, une question importante a surgi, c'est celle de leur droit d'utiliser leur propre pensée comme source de connaissance. Beaucoup ont réagi pour dire qu'ils ont un livre et qu'ils doivent se limiter à ce que dit le livre, c'est-à-dire le Coran. Et c'est là où la question a été posée, la connaissance est-elle uniquement révélée? C'est-à-dire que toutes les questions, toutes les réponses à toutes les questions que les musulmans peuvent se poser et qu'ils se posaient même à ce moment-là, ont des réponses dans le Coran ou est-ce que leur propre pensée, leur pensée humaine peut elle aussi être une source de connaissance. C'est pour cela que je dis la première question sur laquelle qui a été traitée dans le domaine de la pensée musulmane est une question d'ordre épistémologique qui concerne la pensée et la révélation. La pensée est-elle une source de connaissance pour les musulmans après la révélation ou la révélation est la seule source de connaissance? Jusqu'à aujourd'hui, la question est toujours posée pour les musulmans. Dès lors qu'on essaye de réfléchir en dehors de la religion, notamment dans le domaine juridique, dans le domaine de l'organisation de la société, il y a toujours ceux qui réagissent pour dire que les réponses sont dans le texte, elles sont dans l'islam, elles sont révélées. Donc, la révélation est la seule source de connaissance. Dans tout le livre, j'ai démontré comment toutes les problématiques qui ont été posées dans la pensée musulmane nous ramènent impérativement à cette question fondamentale qui est la question de la pensée et de la révélation comme source de connaissance. Les musulmans ont-ils la révélation et la connaissance et la pensée comme source de connaissance ou la révélation à elle seule est source de connaissance pour les musulmans? Donc pour moi, toute la question de la pensée musulmane est fondée sur cette problématique fondamentale de la pensée musulmane.
Les questions se posent très rapidement, vous le dites, dès la mort du prophète Mahomet. Vous citez par exemple un de ses compagnons, Omar ibn al-Khattab, qui a annulé la punition de la main coupée. Et puis, il y a aussi le désir d'adapter le Coran aux conditions sociales et à leurs évolutions, parce que le Coran n'a pas réponse à tout, justement, n'a pas envisagé un certain nombre d'évolutions. Et donc là, les questions se posent. Et vous écrivez qu'il y a un certain nombre d'adaptations qui sont faites, à l'image de celle d'Omar al-Khattab. Mais ces soucis d'adaptation, écrivez-vous, est oublié quand il s'agit d'amender une loi de la charia. Mais la charia, à partir de quand existe-t-elle?
La charia, c'est un terme qu'on utilise pour désigner l'ensemble des règles spirituelles et sociales qui organisent la vie des musulmans comme communauté et comme individu. Donc la charia concerne les règles qui organisent le culte et les règles qui organisent la société. Quand on parle de la charia, il y a des règles juridiques qui existent dans le Coran, ce que j'appelle la charia coranique. D'accord. Mais les musulmans n'appliquent pas la charia coranique. Ils appliquent le droit musulman, qui est fondé sur le Coran, mais qui ne se limite pas au Coran, d'une part, et qui ne reprend pas tout le Coran, d'autre part. Mais pour revenir à votre question, tout à l'heure, j'ai dit que la pensée musulmane est fondée sur cette question épistémologique qui est fondamentale. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'autres problématiques qui nous ramènent toutes à cette question fondamentale qui est celle de la pensée et de la révélation. Et dans le livre, j'ai donné trois théories principales qui ont un rôle très important dans la construction de la pensée musulmane, donc dans la construction de l'islam, qui sont la théorie du Coran incréé, la théorie du salaf et la théorie du naql. Et il y a aussi des principes que les musulmans ont mis en place, dont je parle dans le livre. Ces trois théories que je viens de citer, si on les analyse, elles nous ramènent toutes les trois à cette question fondamentale qui est celle de la pensée humaine a-t-elle une place dans le domaine de la connaissance comme source de connaissance ou pas.
Parce que dans votre livre, en effet, il y a tout un développement passionnant d'ailleurs entre les deux courants, le Coran considéré comme incréé ou le Coran considéré comme créé. Le Coran incréé, c'est ce qui est, c'est la position de tous les littéralistes. Voilà, ceux qui disent un bloc, on touche pas. Et puis ceux qui privilégient la pensée, la réflexion, la raison, eh bien, disent que le Coran, lui, a été créé. Hein, et donc, il laisse une liberté d'interprétation. Alors, avant d'aborder ce sujet, vous abordez effectivement la question de la pensée en islam à travers l'affrontement de deux positions très différentes. Alors, je veux savoir à partir de quand ça s'est manifesté et les deux personnes que vous évoquez qui sont à l'origine justement de la liberté de la pensée ou de l'islam littéraliste, c'est-à-dire intouchable, se sont affrontés. Il s'agit d'Abu Hanifa et de Malek. C'est à quelle époque ces deux écoles en quelque sorte, et pourquoi l'une a triomphé de l'autre? Parce que le Coran créé ou incréé, ça date justement d'Abu Hanifa et de Malek, ou c'est venu encore après?
C'est venu encore après.
Alors moi, je propose de commencer, si vous voulez bien, parce que vous commencez par ça dans votre livre, Abu Hanifa et Malek, parce que Malek, c'est le père spirituel, en quelque sorte, de tous les salafistes.
J'ai dit tout à l'heure que la première question à laquelle les musulmans se sont confrontés est celle de leur droit d'utiliser leur propre pensée dans le domaine du savoir et de la connaissance, après avoir reçu la révélation. Mais si la question a été posée, cela ne veut pas dire que les musulmans n'utilisaient pas leur pensée. Évidemment, d'accord, ils l'utilisaient, car j'ai dit tout à l'heure que le Coran ne répondait pas à toutes leurs questions, et il fallait qu'ils organisent leur vie sociale et politique. Donc, ils ne se sont jamais limités à la révélation, parce qu'il faut savoir que la question a été posée, y compris dans le domaine de l'interprétation des textes coraniques. Car interpréter le texte coranique revient à dire utiliser la pensée humaine dans le domaine de la compréhension de la pensée divine. Donc, la question de cette pensée a été également posée. Mais comme question problématique, comme question épistémologique, comme question intellectuelle, elle n'est apparue qu'un peu plus tard, lorsque justement un juriste qui s'appelle Abu Hanifa, qui était le juriste de l'Irak, a déclaré publiquement que lui, en tant que juriste, avait le droit d'utiliser sa propre pensée dans le domaine juridique et qu'il n'allait pas se limiter au Coran. Donc, il allait utiliser le Coran, mais pour lui, le Coran ne suffisait pas et qu'il fallait qu'il utilise également sa pensée. Il faut savoir que son école dans le domaine de la pensée musulmane s'appelle l'école de l'opinion, en arabe Ra'i. Madrasat Ra'i. Elle est très connue, et cette expression est très connue dans le domaine de la pensée musulmane en langue arabe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle signifie d'abord, cette école de l'opinion? L'école de l'opinion, c'est donc une école où les juristes utilisent sa propre opinion, donc sa propre pensée. Abu Hanifa vivait en Irak, ce qui a fait réagir les Médinois. Médine est la ville où le prophète vivait. Médine, c'est la ville qui considérait qu'elle était la plus légitime pour parler de l'islam, étant donné que c'est eux qui ont vécu avec le prophète, qui avaient des liens de sang avec le prophète, qui maîtrisaient la langue arabe. Il faut savoir qu'Abu Hanifa était d'origine afghane, selon les sources dont nous disposons. Donc, pour les Médinois, ils ne maîtrisaient même pas bien la langue arabe, et surtout qu'il considérait que l'Irak était loin de la tradition du prophète. Et donc, les Médinois ont réagi et à leur tête, le juriste de Médine, Malek ibn Anas, qui est le fondateur du malékisme, qui a considéré qu'un juriste devait se référer au Coran. Et s'il ne trouve pas de réponse dans les textes coraniques, de réponse à ces questions, dans le domaine juridique toujours, il doit se référer au hadith du prophète, à la tradition du prophète, et non à son opinion. Et s'il ne trouve pas de réponse dans la tradition du prophète, il doit se référer à la tradition des compagnons du prophète, et non à son opinion, toujours. Vous voyez comment il pousse loin la pensée humaine. Et si il ne trouve pas de réponse dans la tradition des compagnons du prophète, il doit se référer aux habitudes des habitants de Médine, car les habitudes des habitants de Médine pour Malik ibn Anas reflètent fidèlement les habitudes du prophète. Et pour lui, la pensée n'interviendra que si le juriste questionne ces quatre sources de réponses, de savoir juridique, et s'il ne trouve pas de réponse dans ces quatre sources, à ce moment-là, il peut se référer à sa pensée. Donc, on voit la différence entre les deux écoles, où la première donne de l'importance à la pensée humaine, même si le Coran passe en premier lieu, alors que la seconde, la pensée humaine n'intervient qu'en dernier recours. Donc déjà, dans ces deux écoles, il y a une grande différence par rapport à la pensée et à la révélation. Je termine avec cela. L'école de Médine s'appelle, dans la pensée musulmane, l'école du hadith. On a l'école de l'opinion, oui, l'école de l'Irak, et l'école du hadith, l'école de Médine. Il faut savoir que dans la pensée musulmane, ces deux écoles sont connues pour leur antagonisme et pour le fait qu'elles n'étaient pas d'accord sur la manière de répondre aux questions juridiques des musulmans.
À vous écouter, Radhika Adani, on a l'impression qu'effectivement, les personnes comme vous, ce qu'ils disent, mais il y a la pensée, la réflexion et la raison qui nous doivent nous donner une véritable autonomie dans l'interprétation et l'adaptation du Coran au temps moderne, à notre époque contemporaine, dans différents pays. Vous êtes en quelque sorte une héritière d'Abou Hanifa, de cette école d'Irak, alors que tous les salafistes, wahhabistes, islamistes, terroristes que l'on connaît, et malheureusement, lorsque la majorité des musulmans en France disent bah, d'abord la charia avant la République, eh bien, ce sont des héritiers de cette école de Médine, hein, l'école donc de Malek. C'est ça, tout vient de là en quelque sorte.
Je ne suis pas l'héritière de l'école d'Abou Hanifa de l'Irak. J'explique seulement cette école.
Mais vous-même, vous êtes pour la liberté de la pensée en islam.
Pour moi, la société doit être organisée selon des règles issues de la raison et non de la religion.
C'est ça.
Abou Hanifa, il ne dit pas cela.
Il ne dit pas cela.
Pour lui, l'Irak, le Coran est la première source. Et ensuite, la pensée humaine. C'est l'école de l'opinion.
D'accord.
N'exclut pas le Coran. Donc, on reste dans le domaine de la religion. Il y a une grande différence.
D'accord.
Alors que moi, je pense qu'aujourd'hui, la société doit être organisée selon des règles issues de la raison et non de la religion. Mais j'explique pourquoi les musulmans, pourquoi la question, d'où elle vient, comment ils l'ont traitée et pourquoi c'est l'école qui donne davantage place à la révélation.
D'accord.
Qui a fini par s'imposer.
Pardonnez-moi, mais c'est intéressant. Parce que quand on vous lit, vous proposez quand même une évolution claire de l'islam basée sur la raison. Hein. Et on a l'impression, effectivement, que ce courant remonte à la position d'Abou Hanifa, qui a été défaite à deux reprises, et défaite au XXe siècle sur la place importante de la raison. Vous êtes plutôt... on a compris donc que pour vous, ce qui motive avant tout l'organisation de la société, c'est la raison, mais pas éclairée par le Coran.
C'est la pensée créatrice et rationnelle qui a été, qui a connu une défaite. Et elle n'est pas limitée à l'école d'Abou Hanifa qu'on appelle l'école Hanafite. Cette école représente le domaine juridique uniquement.
D'accord.
La question a été posée dans le domaine théologique et qu'on retrouve avec les conservateurs et les littéralistes en face d'eux, il y avait les Mu'tazilites. Et elle a été posée cette question, y compris dans le domaine philosophique. Donc la question de la révélation et de la pensée comme source de connaissance a touché pratiquement tous les domaines, en dehors des domaines scientifiques, mais c'est elle ça. A touché le domaine de la théologie, de la jurisprudence, de l'interprétation des textes coraniques, y compris dans le domaine philosophique, on la retrouve également. Mais il faut savoir que la question de le Coran est-il créé ou incréé,
il situe... Pardon, moi, juste une question pour revenir à... Bien, on vient au Coran créé et incréé, naturellement. Abou Hanifa et Malek, c'est quelle époque ?
On est au 8e siècle.
Oui, c'est donc. Environ. D'accord. Oui. C'est vraiment le tout début, au 8e siècle. Sachant que dans le raisonnement de Malek, lorsqu'il y a ces quatre étapes, hein, avant d'en arriver au cas désespéré, réfléchir par soi-même, avant il y a tout le Coran, les hadiths, ce qu'ont fait les compagnons. De Mahomet, hein, et puis le comportement finalement des personnes de Médine, parce que ce sont les héritières spirituelles en quelque sorte, et ça commande. Avant, d'abord, il y a ces quatre conditions, et après on arrive à la raison. Ça, c'est effectivement très très tôt, au 8e siècle. Or, vous nous dites, les hadiths, qui donc ce sont les déclarations de Mahomet hors Coran. Hein,
c'est les paroles et les comportements.
C'est ça, paroles et comportements qui ont été mis par écrit. Ouais. Mais ces hadiths, c'est seulement le 9e siècle, non ?
C'est écrit. Les recueils des hadiths écrits environ 150 ans après la mort du prophète.
D'accord. Donc, et c'est fidèle ou pas, d'après vous ?
Les recueils des hadiths ont été écrits justement parce que certains... penseurs, si on peut utiliser ce terme, ont remarqué justement à ce moment-là qu'il y avait énormément de hadiths et que beaucoup avaient leur paraissaient douteux. Donc ils voulaient faire le tri entre les vrais hadiths, les hadiths authentiques et les hadiths qui n'étaient pas authentiques, car en effet, beaucoup ont été ajoutés. Donc il y a eu des chercheurs, si on peut utiliser ce terme, qui ont travaillé dans le domaine des hadiths. Ils ont mis en place des méthodes qui leur permettent de distinguer le hadith qui était pour eux, leur paraissait authentique, des hadiths qui paraissaient douteux et des hadiths qui leur paraissaient carrément mis en place par les musulmans et non pas et qu'ils n'appartiennent pas aux prophètes. Donc les hadiths ont été écrits dans cette atmosphère.
Alors, ça posait une question qui est toujours actuelle, hein, notamment pour savoir qui peut avoir la responsabilité de changer l'islam et que ce soit reconnu par les musulmans. À l'époque, là, dans cet affrontement donc juridique entre Abou Hanifa et Malek, et puis après ces chercheurs, ces penseurs, je ne sais pas si le terme d'imam est déjà adapté, eux qui ont défini les hadiths réellement prononcés par Mahomet, ça pose la question de qui décide. Est-ce que c'est le pouvoir politique qui a dit, le sabre le plus puissant en quelque sorte, qui dit bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, ou alors au contraire, y a-t-il des religieux qui ont le pouvoir spirituel. Comment ça s'est passé ?
À l'époque, il y avait des religieux, il y avait des politiques. L'imbrication entre le politique et le religieux existait dès la période de Médine. Cette imbrication a continué d'exister après la mort du prophète. Mais il y a eu aussi des étapes dans l'histoire des musulmans où les religieux et les politiques n'étaient pas d'accord. Par exemple, en Irak, justement, le calife Al-Mamoun était en désaccord avec Ibn Hanbal, qui était un religieux. Donc il y avait des désaccords aussi parfois entre les religieux et les politiques, et parce que Al-Mamoun était plus proche des Mu'tazilites. D'ailleurs, on considère qu'il était Mu'tazilite. Et il y a eu d'autres époques où
c'est
les religieux...
C'est Hanifa, les Mu'tazilites, hein?
Non, pas du tout. Abu Hanifa, c'est le domaine juridique. Oui. Et les Mu'tazilites, on est dans le domaine théologique.
D'accord.
Même si... ils avaient la même position.
C'est ce que je
voulais
dire, oui.
Mais ce n'est pas la même chose. Hein. On est dans le domaine juridique et les Mu'tazilites
sont le domaine religieux.
C'est le domaine théologique, d'accord. Même si les Mu'tazilites se sont intéressés aussi au domaine juridique. On ne peut pas réellement les séparer. Mais c'est important quand même de les distinguer de cette manière-là. Si les trois théories les plus importantes de la pensée musulmane. La théorie du Coran incréé, la théorie des salafs et la théorie du Naql, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles avaient toutes les trois, elles ont été tissées toutes les trois, justement pour empêcher la pensée des musulmans de s'exprimer dans le domaine religieux. Quand je dis domaine religieux, domaine juridique, domaine théologique, domaine exégétique. Et ces trois théories donc sont toujours d'actualité. Elles ont toujours une influence très importante sur la pensée musulmane et sur la pensée des musulmans, même si une grande partie des musulmans ne les connaissent pas. Tout à l'heure, on a parlé de la théorie du Coran incréé. Cette théorie, beaucoup considèrent que le Coran, qu'elle existe dans le Coran. En réalité, elle n'existe pas dans le Coran et le Coran ne dit pas que le Coran est incréé. Ce sont les juristes et les musulmans qui ont créé cette théorie du Coran incréé. Qu'est-ce qu'elle signifie exactement, cette théorie? Comme son nom l'indique, elle signifie que le Coran n'est pas créé. Il n'est pas créé par qui? Par Dieu. Donc Dieu n'a pas créé le Coran. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé le Coran? Eh bien parce que le Coran fait partie de Dieu. Il est un des attributs de Dieu, selon cette théorie. Et Dieu n'existe pas sans ses attributs. Donc, quand Dieu a existé, et Dieu a toujours existé, le Coran existait avec lui. Donc, le Coran n'a pas été créé par Dieu, qui a créé toutes les autres créatures qui existent dans ce monde, hormis le Coran, parce que le Coran fait partie de Dieu. Et quand Dieu a créé le temps pour créer le monde, eh bien le Coran existait déjà, donc il ne fait pas partie de ce que Dieu a créé et il n'existe pas à l'intérieur du temps, mais à l'extérieur du temps. Donc ils ont construit cette théorie pour à la fin dire que le Coran existe en dehors du temps, donc il n'est pas influençable par les changements du temps et du lieu et qu'il est valable en tout temps et en tout lieu. Et ce sont justement les conservateurs qui ont créé cette théorie pour dire que le Coran existe en dehors du temps, donc ses règles juridiques sont valables en tout temps et en tout lieu, et la pensée humaine n'a pas à intervenir dans le domaine juridique, elle doit seulement se référer au Coran qui est valable en tout temps et en tout lieu. Cette théorie a eu des adeptes, mais des opposants également. Et parmi ces opposants, les Mu'tazilites, qui étaient des opposants de la théorie du Coran incréé, et pour eux, le Coran est créé. Créé, cela ne veut pas dire qu'il... Parce que pour ceux qui disent que le Coran est incréé, il s'appuie quand même sur deux versets coraniques, qui disent que le Coran est gardé auprès de Dieu dans une table, est auprès de Dieu dans une table gardée. Donc pour eux, ce verset est une preuve que le Coran est incréé parce qu'il est gardé auprès de Dieu. Donc les Mu'tazilites ne nient pas qu'il y a un Coran qui est auprès de Dieu, mais pour eux, ce n'est pas le Coran que Dieu a envoyé aux musulmans. Celui qu'il a envoyé aux musulmans, il l'a créé spécifiquement pour qu'il soit adapté et adaptable à la période des Arabes en Arabie au 7e siècle. Donc c'est un Coran créé que les musulmans connaissent.
Ce qui promeuve le Coran incréé s'appuie donc sur un verset qui est discutable en quelque sorte et qui est discuté par ceux sont les défenseurs d'un Coran créé. Alors pourquoi? On est à quelle époque, là?
On est au 9e siècle.
C'est ça. Alors on est au 9e siècle, c'est une date capitale, en fait. Hein. C'est un siècle capital, en tout cas, parce que c'est la théorie du Coran incréé qui va l'emporter. Alors, je vais vous poser la question. Donc ce sont les mutualisilites qui défendent le Coran créé contre... ceux qui défendent donc le Coran incréé. Ceux qui défendent le Coran incréé, qui sont-ils? Vous dites qu'il y a des juristes, il y a des religieux. J'imagine que c'est pareil chez les mutualistes qui défendent la version du Coran créé. Qui sont-ils et pourquoi l'incréé l'a emporté. On est au 9e siècle. Et quelles en sont donc les conséquences? Quels sont les, en quelque sorte, les parrains spirituels de ces deux écoles?
Et il faut savoir que j'ai donné tout à l'heure, j'ai parlé de deux versets coraniques qui parlent du Coran, que les adeptes de la théorie du Coran incréé utilisent comme preuve que le Coran est incréé. Mais dans le Coran, il y a aussi un autre verset qui raconte que même si toutes les mers se transformaient en encre et tous les arbres se transformaient en plumes, ils ne pourront pas suffire pour écrire la parole divine. Ce qui revient à dire que la parole divine est infinie. Or, le Coran, que nous connaissons, est un livre qui a le nombre de versets qui est fini, bien déterminé, le nombre de sourates bien déterminé, le nombre de feuilles et l'encre qu'on utilise pour l'écrire. Donc, pour les Mu'tazilites, ce verset-là, et qu'on peut nous aussi utiliser facilement pour dire que ce verset-là montre que la parole divine qui est infinie ne peut pas être le Coran qui existe auprès de Dieu, comme disent les Mu'tazilites, n'est pas le Coran dont nous disposons, que les musulmans connaissent, celui qu'ils posent sur leur table de chevet ou sur un meuble. Alors, chez eux. Donc pour eux, le Coran est créé. Maintenant, je reviens à votre question. À un moment donné de l'histoire des musulmans, on est au 9e siècle, Al-Ma'mun a fait de la théorie du Coran créée la théorie de l'État. Donc, la politique, qui se mêle aussi du domaine religieux, il a fait de cette théorie une théorie de l'État. Après la mort d'Al-Ma'mun, les religieux, notamment Ibn Hanbal, qui était à l'époque, un défenseur de la théorie du Coran incréé, après la mort d'Al-Ma'mun, c'est les religieux qui ont fini par s'imposer. Et quand Al-Mutawakkil est arrivé au pouvoir, un des, je pense, des cousins d'Al-Ma'mun, si je ne me trompe pas, Al-Mutawakkil était calife de 847. Et je ne sais pas exactement.
Il était calife où ça?
Il était calife abbasside, donc il était à Bagdad.
D'accord, c'est à Bagdad.
Et le Mutawakkil a fait du Coran incréé la théorie de l'État. Donc c'est la théorie du Coran incréé qui a fini.
Ce sont les politiques qui, finalement, ce sont les politiques, c'est le calife, sont les sabres, en quelque sorte, qui ont imposé le Coran incréé au 9e siècle, alors que son prédécesseur, lui, avait plutôt opté pour le Coran créé, c'est ça. C'est une décision politique, en quelque sorte.
C'est une décision politique, oui. Mais c'est ce que je dis, d'ailleurs, dans l'ouvrage.
Oui, mais ceci étant dit, vous dites quand même que le rationalisme mutuazilite, qui est donc le Coran créé, vous nous expliquerez bien les conséquences, hein, entre le fait qu'on adopte le Coran incréé, quelles sont les conséquences par rapport au Coran créé. Mais vous dites que pourtant que ce rationalisme mutuazilite...
Mu'tazilite, oui.
Pardonnez-moi, n'a pas été bien perçu par la majorité des musulmans. Donc il n'y a pas qu'une décision politique, celle du calife abbasside, d'imposer le Coran incréé. Il y a aussi le fait que la majorité des musulmans, déjà, étaient pour le Coran incréé.
C'est la théorie du Coran incréé est plus acceptable par la majorité de la population.
Pourquoi?
C'est plus facile de dire que ce Coran, il existe auprès de Dieu tel qu'il est, Dieu l'a envoyé tel qu'il est aux musulmans, et il faut le suivre comme ça éternellement jusqu'à la fin des temps. C'est beaucoup plus facile que de comprendre la théorie des Mu'tazilites et comment ils ont essayé d'expliquer qu'il y a un Coran auprès de Dieu, mais ce n'est pas celui qu'il a envoyé aux musulmans. Et si il y a un Coran qui existe en dehors du temps et du lieu et qui est valable en tout temps et en tout lieu, ce Coran-là, en dehors du temps, les Arabes du 7e siècle n'auraient jamais pu le comprendre. C'est ce que disent les Mu'tazilites. Parce qu'il est tellement général pour toute l'humanité et pour tous les temps que l'être humain qui est lui-même il vit dans un temps bien déterminé et dans une époque bien déterminée, aura du mal à le comprendre. Notre pensée est limitée par le temps et par l'époque dans laquelle nous vivons, dans lesquelles nous vivons. C'est pour cela que je dis dans l'ouvrage que la majorité de la population était plus facile.
Radicalisé, malheureusement, nous aussi, nous sommes limités par, par le temps. Nous allons faire une pause musicale après un message de la radio. Mais j'ai une question, justement, mais vous y répondrez après la pause, si vous voulez bien, parce que c'est celle qui nous concerne. Pourquoi la victoire du Coran incréé, victoire politique avant tout, mais vous nous l'expliquez, très appuyé par la majorité des croyants musulmans de cette époque au IXe siècle, pourquoi cette défaite du Coran créé ou la victoire du Coran créé aboutit à la victoire du littéralisme, celle que l'on connaît toujours au XXIe siècle? Réponse donc après cette pause musicale. Radhika Adani, vous avez choisi une pause musicale particulière. Je vous laisse en expliquer le choix.
C'est un chant kabyle que j'ai pensé qu'il était beau, oui, et qu'il touchait les sentiments de la personne qui l'écoute. Donc voilà, je l'ai choisi pour ça.
Et ça raconte quoi? Parce que c'est en berbère.
C'est un chant kabyle d'une femme qui s'appelle Malika Owas. Et voilà, je pense que n'importe qui peut l'écouter en dépit de la langue, mais n'importe qui peut l'écouter pour la beauté de la musique elle-même.
D'accord.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Salami hula yuni anafus. Ina
Bien, après avoir écouté ce chant berbère kabyle qui nous passe leur bonjour, c'est le titre du chant, c'est une chanson traditionnelle kabyle chantée par Maïka Ouaès. Eh bien, chers auditeurs, nous prenons notre discussion avec Radhika Dhani, qui est écrivain islamologue, à l'occasion de ce livre « Islam, quel problème, les défis de la réforme ». C'est un livre qui est passionnant et qui nous éclaire sur la situation actuelle de l'islam. En fait, c'est ça qui est important pour nous ce soir, et c'est qu'on comprenne d'où vient justement la situation actuelle avec les wahhabites, les salafistes, et puis les islamistes terroristes. Eh bien, d'où ça vient? Et est-ce que c'est... quelque chose qui peut être modifié, avec quelles mesures? Et c'est tout l'objet, tout le thème de ce livre. Et Radhika Dhani a commencé à nous expliquer, à faire un point historique, religieux et politique justement, sur les différents courants qui se sont affrontés après la mort de Mahomet. Hein. On a vu d'abord le premier affrontement entre juridique, hein, entre l'école de Bagdad et l'école de Médine, hein, Abou Hanifa à Bagdad, était pour l'interprétation juridique d'un certain nombre de...
L'intervention de la pensée humaine.
C'est ça,
dans le domaine
dans
juridique.
L'interprétation des textes, naturellement, alors que Malek, lui, ce n'était hors de question. Et puis après, il y a eu cet affrontement entre le Coran incréé et le Coran créé, et qui va nous amener à l'étape suivante, en quelque sorte. Radhika Dhani va nous expliquer ce point qui est fondamental, parce que ça va amener à la défaite définitive, quasiment définitive, à la fin du XIIe siècle, de la pensée dans l'islam, et la victoire du littéralisme qui va nous amener effectivement tous les maux dont nous souffrons actuellement en France et puis aussi dans bien d'autres pays. Nous avons quand même, nous avons de nombreux messages, chers auditeurs, je vous en remercie, parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de standard. Il y a, c'est magnifique, un standard. Donc je rappelle 01 46 51 00 85, donc n'hésitez surtout pas à téléphoner, Laurent sera ravi de prendre vos messages. Nous avons de nombreux messages, malheureusement, chers auditeurs, je vous en demande pardon, je ne pourrais pas tous les lire. Alors j'en lis un premier déjà, un auditeur qui nous dit « J'ai lu des passages du Coran en traduction, certes, mais je n'ai pu aller bien loin, tant cela me paraît décousu, dit-il. Comment peut-on parler de pensée dans un texte qui se contredit, qui tombe parfois dans les anachronismes, qui passe du coq à l'âne? C'est une énigme à laquelle je ne trouve pas de réponse. Le miracle, toutefois, c'est qu'un tel texte ait donné lieu à une civilisation qui fut brillante en son temps. »
Justement, tout à l'heure, j'ai commencé par expliquer que ce livre, il est né d'une réaction à une explication de la montée du fondamentalisme et de l'intégrisme aujourd'hui, en France, mais pas seulement, parce que je ne fais pas de différence, je parle de l'islam d'une manière générale, dans les pays musulmans et en Occident. Et j'ai dit tout à l'heure qu'en France, justement, en 2015, on expliquait cette montée par des problèmes socio-économiques. Donc c'était la théorie sociologique qui voulait expliquer par les moyens et par les facteurs socio-économiques la montée du fondamentalisme et de l'islam conservateur. Et dans ce livre, j'ai essayé d'expliquer que cela a des facteurs plutôt qui sont liés à la pensée musulmane, à la manière de penser les musulmans, à la manière des musulmans de penser l'islam, mais surtout le regard qu'ils portent sur la pensée humaine comme source de connaissance. Et j'ai expliqué comment, à un certain moment dans l'histoire des musulmans, la pensée était considérée, pas par tous les courants, mais il y avait des courants qui étaient pour la pensée créatrice et rationnelle, car les Mu'tazilites étaient des rationalistes et ils défendaient la rationalité au sens grec du mot. Mais cette pensée a connu une défaite. C'est une défaite que je situe environ, on peut dire environ au XIIe siècle. C'est à ce moment-là que les courants qui étaient contre la pensée et qui voulaient que la révélation soit la seule source de connaissance, pour eux, la vérité est révélée et ainsi elle doit être construite. C'est ce que je dis dans le livre. Alors qu'il y avait un autre courant qui, pour eux, la vérité est révélée, mais aussi construite. Alors que pour les autres, la vérité est révélée et ainsi elle doit être transmise. Donc on a deux courants qui étaient complètement différents et c'est le courant qui ne reconnaissait pas la place de la pensée comme source de connaissance qui a fini par s'imposer. Évidemment, quand la pensée a connu une défaite, cette défaite a touché le domaine juridique, le domaine théologique, domaine et les autres domaines, car la pensée est une seule chose.
Non, justement, pardonnez-moi, Radical Dany, c'est important de comprendre ça. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de ce que la pensée, la raison, la réflexion peut modifier concrètement, notamment au XIIe siècle? Et puis le corollaire, c'est pourquoi et comment a-t-elle perdu?
La civilisation musulmane a connu une effervescence dans tous les domaines.
C'est ça.
Domaines scientifiques, même si certains le nient aujourd'hui. Mais quand on connaît le Khawarizmi, quand on connaît Al-Biruni, quand on connaît Ibn Sina, Avicenne, quand on connaît, même dans le domaine littérature, quand on connaît Al-Mutanabbi, quand on connaît les Mu'tazilites, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de civilisation musulmane, même si d'autres populations ont participé à l'élaboration de cette civilisation. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait d'autres communautés également. Mais il y avait une grande civilisation musulmane, y compris dans le domaine de l'islam et de la pensée musulmane. Tout ce discours que je viens de tenir aujourd'hui existait à ce moment-là. Aujourd'hui, on prend tout superficiellement. Et même la théologie a connu une défaite. Hein, et quand la pensée a connu une défaite dans le domaine théologique et religieux, cette défaite a touché tous les autres domaines, car la pensée est un tout indivisible.
Justement, dans le domaine religieux, pouvez-vous donner des exemples concrets qui montrent les conséquences de cette défaite ou ce que les mutuazilites, par exemple, apportaient de particulier?
Ont disparu.
Oui, ou alors de libertés qui ont disparu, justement.
Les mutuazilites ont disparu vers le Xe siècle, oui. Alors qu'ils ont connu leur apogée au VIIIe siècle, ils ont disparu, les écoles de philosophie ont été fermées. Il faut savoir que les mutuazilites ont été attaqués, on les a accusés d'avoir utilisé la raison qui est étrangère à l'islam, qui vient des Grecs, donc étrangère à l'islam. À partir de là, la philosophie, elle aussi, a été attaquée. Donc les écoles de philosophie ont été fermées, les écoles de pensée, de réflexion, de liberté.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait plus de possibilité d'adaptation aux évolutions de la société, de ce que dit le Coran, de ce qu'ils disaient les versets, de ce qu'ils disaient les hadiths? Est-ce que c'est ça la conséquence? Est-ce que c'est ça qui a interdit la liberté de penser? Est-ce que c'est ça qui a créé l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, etc.?
Il faut savoir que tout à l'heure, on a parlé que de la théorie du Coran incréée. Mais ce n'est pas la seule théorie qui peut nous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans le domaine de la pensée pour qu'elle soit bloquée. Il y avait aussi d'autres théories, notamment la théorie du salaf, qui considère que si les musulmans avaient besoin d'interpréter les textes coraniques, de mettre en place le droit musulman, eh bien, le travail a été fait par les premiers musulmans après la mort du prophète. Il a été fait par les premiers musulmans, les salafs. Et les salafs sont ceux qui connaissent la vérité divine. Donc, aujourd'hui, après les salafs, on ne fait plus aucun travail. Celui qui veut la vérité, il la trouve chez les salafs. Donc, il y avait le salafisme. Il y avait aussi la théorie du naql dont je parle beaucoup dans mes ouvrages. Oui. Le naql est un terme arabe qui signifie que le commentateur du Coran, il prend le sens tel qu'il est dans le Coran, il le transmet tel qu'il est dans le livre, dans le commentaire. Naql est un terme arabe qui veut dire prendre et transférer, prendre une chose d'un endroit et la mettre dans un autre endroit. Donc prendre le sens du Coran et le déposer tel qu'il est dans le commentaire. C'est ce que signifie la théorie du naql. Elle est très connue dans la pensée musulmane en arabe, où un concept même a été mis en place à ce moment-là qui dit naql et non akl. Akl veut dire raison, naql veut dire prendre et transférer. Imaginez qu'Abou Ibn Hanbal, c'était un de ces principes, naql et non la raison et non le akl. Donc on voit comment il y avait une attaque contre la pensée créatrice et rationnelle. On l'a accusé d'être étrangère à l'islam, on l'a accusé de menacer l'islam. Donc on a construit toutes ces théories pour bloquer la pensée, pour ne l'entourer avec des théories pour qu'elle ne réfléchisse plus.
Mais ce que vous dites, Radhika Dani, c'est que ce blocage, donc, qui s'appelle naql, qui s'appelle salafisme, wahhabisme, tout ça, c'est un peu, arrive à la même source, qui est celle donc du Coran incréé. Le triomphe de ce blocage et la défaite de la pensée à travers la défaite mousilite, c'est d'abord une œuvre politique. Ce sont les politiques qui ont décidé que ce serait ainsi.
Il y avait beaucoup de politique. Évidemment, les califes avaient leur rôle dans ce qui s'est passé. Dans ce qui s'est passé, d'ailleurs, je l'explique dans l'ouvrage. À un moment donné, les califes voulaient s'ouvrir sur la pensée libre. Ils voulaient construire une civilisation. Ils voulaient une civilisation qui rivalise avec les autres civilisations. Et ils ont ouvert donc le champ à la pensée pour qu'elle réfléchisse. Et il y avait aussi un besoin de construire toute cette pensée, parce que l'islam, ce n'est pas que le Coran. Mais après, d'autres politiques ont décidé. Évidemment, ils étaient aussi sous l'influence des religieux qui voulaient fermer toute la pensée, étant donné que pour eux, cette pensée libre risquait de menacer l'islam. Mais ce qui est important, je parle de la réforme de l'islam, j'ai dit qu'au 19e, début 20e siècle, lorsque les musulmans voulaient réformer l'islam, il fallait qu'ils libèrent la pensée, justement, qui a été en défaite. Il fallait qu'ils se libèrent, qu'ils libèrent la pensée de cette théologie, de ces théories, ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu réformer l'islam.
Au 19e et au 20e siècle, nouvelle tentative, nouvel échec.
Nouvel échec parce
qui,
que...
Qui a tenté, quand vous dites les musulmans voulaient faire évoluer l'islam, justement, donner une place à l'autonomie, à la raison, à la pensée, pour adapter justement ce que disent les textes, et notamment certains versets sont contradictoires, dont ont besoin d'être interprétés pour arriver. C'est ce que fait la charia, d'ailleurs. La charia, vous expliquez dans votre livre, elle est prise comme un dogme, mais la charia, c'est une interprétation aussi. Mais pourquoi, quand vous dites donc les musulmans au 19e et 20e siècle ont voulu, c'est quels musulmans? Et pourquoi encore, c'est à nouveau un échec. On a l'impression quand même que la masse musulmane, comme vous l'écrivez d'ailleurs, et comme ça transparaît à travers les sondages en France, l'immense majorité des musulmans sont pour le Coran incréé, et sont contre toute interprétation et toute part de la pensée, ce qui fige complètement les choses, notamment sur le port du voile, l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, etc. C'est qui les musulmans au 19e siècle qui ont voulu ça?
Je ne dis pas la masse des musulmans, elle est aujourd'hui pour un Coran incréé.
Ce que disent les sondages, hein.
Quand je parle de la masse des musulmans, ce n'est pas que la France. La masse des musulmans ou les musulmans, on peut pas se limiter.
C'est vrai qu'il faut être un sondage en Iran, ça serait peut-être différent.
Oui, d'ailleurs, dans d'autres pays musulmans. Hein. D'ailleurs, dans l'ouvrage, j'explique qu'en France, on a un problème, celui de vouloir tout expliquer par des facteurs franco-français. On se limite à la France pour comprendre un phénomène qui n'est pas limité à la France. Là où déjà, c'est un grand problème.
Oui, mais Radhika Dani, pardonnez-moi, excusez-moi, je vous interromps. Mais si on regarde la situation de l'islam dans les pays où il est pratiqué, où c'est la charia qui est dans la constitution, ce sont quand même les pays majoritaires, vous l'écrivez vous-même. Ces pays ont acquis un retard considérable. On pense au Maroc, où c'est quand même la charia. On pense à l'Algérie. On pense... alors la Tunisie c'est un petit peu différent effectivement, mais on pense à la Syrie qui fait un, pff, où la situation semble terrible pour les minorités non musulmanes, et puis bien d'autres pays encore. Alors le Pakistan a une constitution...
Mais là, vous parlez des lois, vous parlez de l'État, de la politique. Tout à l'heure, on parlait de la masse, donc les peuples. Moi, je ne peux pas dire, est-ce que les peuples aujourd'hui... pense que le Coran est incréé ou pas. On n'a pas fait de statistiques pour le savoir. Oui, mais il y a un retour au conservatisme. En effet, il y a un retour au conservatisme, au littéralisme, un échec de la modernisation, un échec de la réforme que voulaient les politiques et les intellectuels au début notamment du XXe siècle.
Qui, par exemple, politique, quelle politique c'est Nasser, non
Plutôt Atatürk, mais
Atatürk, oui.
Il y avait...
C'est un chemin inverse qui se fait actuellement en Turquie.
C'était des réformes, il y avait des réformistes, mais cela ne veut pas dire que c'était des réformes parfaites qui touchaient tous les domaines et qui n'avaient pas de limites. Hein. Donc c'était des réformes intéressantes, mais qui avaient leurs limites. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans l'ouvrage.
D'accord.
La réforme n'a pas pu se concrétiser parce qu'elle avait ses limites. Et une de ses limites les plus importantes, c'est l'incapacité de ces réformistes à changer leur regard négatif à l'égard de la pensée libre et rationnelle. Ils avaient toujours peur de cette pensée libre et rationnelle, et à ce moment-là, ils avaient du mal à réformer l'islam.
Alors vous dites...
C'est pour ça d'ailleurs que je dis la réforme de l'islam doit commencer... par une réforme de la représentation de la pensée dans la pensée des musulmans.
Mais alors justement, c'est la troisième partie de votre livre, La réforme de l'islam, pourquoi peine-t-elle à se faire? C'est le titre de cette partie. C'est une question, on l'a compris, qui n'est pas nouvelle. Vous dites qu'il y a un certain nombre de réformistes, vous citez d'ailleurs Tariq Ramadan, qui bloque la réforme. Moi, j'aimerais vous poser pour vous... qu'est-ce que c'est? Quelle forme pourrait avoir un islam renouvelé? À quelles conditions? Et surtout, comment mener cette réforme que vous proposez? En fait, c'est le quoi, et puis comment, et avec qui? Et vous semblez en la matière, pardonnez-moi Radicanani, c'est pas du tout une critique, c'est au contraire, ça rend votre combat encore plus courageux pour la liberté de penser dans l'islam, mais... Vous semblez très minoritaire quand même. Hein.
Je ne nie pas qu'il y a un recul très inquiétant d'ailleurs que je constate dans le domaine de la lutte pour la réforme de l'islam. Et dans ce livre, la question que je me suis posée vers la fin, pourquoi la réforme de l'islam peine-t-elle à se concrétiser? Évidemment, j'ai essayé d'expliquer, d'analyser, de chercher les causes. Parmi ces causes, je viens de le dire, une de ces causes, c'est qu'on n'a pas libéré, on n'a pas changé le regard négatif qu'on avait, je parle des musulmans, à l'égard de la pensée. Et que beaucoup de réformistes étaient en réalité ceux qui ont bloqué la réforme. Et j'ai donné des exemples, et vous l'avez cité, Tariq Ramadan, qui était à l'époque considéré en France comme un grand réformateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que me suis intéressée à son cas.
Quelle réforme radicale? Pardonnez-moi, il reste 6 minutes seulement.
Oui, et j'explique, parce que le terme réforme lui-même, si on ne l'explique pas, pose problème. Parce que les salafistes eux-mêmes parlent de réforme. Donc dans l'ouvrage, j'explique que la réforme dont je parle et qui est nécessaire pour l'islam aujourd'hui est une réforme qui est orientée vers l'avenir, qui crée du nouveau et non pas celle qui cherche à retrouver l'islam des premiers musulmans. Donc il faut d'abord expliquer cela, car aujourd'hui, je lis encore dans la presse française, dès lors qu'on parle de réforme, il y a ceux qui écrivent pour nous dire on n'a pas besoin ou on a besoin d'une réforme luthérienne. Ce n'est pas de cette réforme qui cherche l'islam ou la religion pure des premiers musulmans dont je parle. Je parle d'un travail en profondeur qui crée un nouvel islam sur le même Coran. Et c'est là la question que je me suis posée. Est-elle possible ou pas, cette démarche? Ma réponse, oui, elle est possible. Et je l'explique davantage dans mon ouvrage « Sortir de l'islamisme ».
Oui, alors justement, en quelques mots, mais s'il nous reste 5 minutes seulement, mais quelques mesures phares et comment serait-elle applicable?
Eh bien, d'abord, il faut savoir, comme j'ai commencé à l'expliquer, que l'islam ne se limite pas au Coran. il y a le Coran, il y a tout le travail qui a été fait à partir du Coran. C'est pour ça, dans cet ouvrage, j'ai forgé d'ailleurs beaucoup de concepts nouveaux. Parmi ces concepts, l'islam révélé, l'islam construit. J'explique que l'islam révélé, selon la foi musulmane, c'est l'islam coranique. C'est l'islam qui existe dans le Coran. Mais les musulmans ne pratiquent pas l'islam qui existe dans le Coran. Ils pratiquent l'islam qu'ils ont construit après avoir interprété le Coran, après avoir mis en place le droit musulman, après avoir déterminé les méthodes à suivre, le naql par exemple, après avoir mis en place la théologie musulmane qui, elle, décide du comportement des musulmans à l'égard et face au Coran. Donc, il faut d'abord savoir cela. Si les premiers musulmans ne se sont pas limités au Coran, à partir du Coran, ils ont construit leur islam au pluriel, leur islam au pluriel. L'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam soufi, et ces islams eux-mêmes se divisent en plusieurs islams. Pourquoi aujourd'hui, il serait impossible de construire un autre islam qui serait plus compatible à notre époque? Pourquoi les premiers musulmans avaient le droit de construire leur islam et pas ceux d'aujourd'hui? Ensuite, quand on parle de l'islam, il y a le Coran, évidemment, donc il y a l'interprétation du Coran. L'interprétation est un travail humain. Et le travail humain ne peut pas se limiter aux premiers musulmans. Ils n'étaient pas des dieux. Le Coran est fondé sur un seul dieu. Donc, c'est une religion monothéiste. Les premiers musulmans, ils ont fait le travail qu'ils voulaient faire, qu'ils pouvaient faire, mais ils n'étaient pas des dieux. Donc, les musulmans d'aujourd'hui ont tout à fait le droit, sur le plan religieux, de refaire ce travail tant qu'ils respectent le Coran. Respecter le Coran ne veut pas dire l'appliquer à la lettre. Car il faut savoir que l'islam qu'on pratique aujourd'hui, qui est proposé aux musulmans d'aujourd'hui, ne reprend pas tout ce qui existe dans le Coran. Par exemple, dans le Coran, il y a plusieurs versets coraniques qui reconnaissent la liberté de conscience. Mais on ne la retrouve pas dans la charia pratiquée par les musulmans, dans l'islam proposé par le discours religieux. Ce qui veut dire que le discours religieux a pris d'autres versets en compte et non pas cela. Donc, il y a un travail humain qui a été fait et qui correspondait à la culture de ces premiers musulmans, et rien n'interdit aux musulmans d'aujourd'hui de refaire ce travail qui a été fait.
Alors, Radhika Kadani, c'est parfaitement clair ce que vous nous proposez. Il reste deux toutes petites minutes. Qui peut mener ce travail?
Ce travail, d'abord, revient aux musulmans. Et quand je dis aux musulmans, donc aux populations musulmanes, en particulier, il faut qu'ils soient acceptés par les religieux. Mais le travail lui-même, je pense qu'il doit être fait par les intellectuels, parce que les religieux, je pense aujourd'hui, qu'ils sont incapables de le faire. Les intellectuels peuvent le faire, mais une fois qu'ils l'ont fait, ils le proposent aux musulmans. Et si les religieux doivent l'accepter, parce qu'en réalité, ils respectent tous les principes de l'islam, et je pense qu'il ne pourra se concrétiser réellement que c'est les politiques.
On espère aussi, à vous écouter, qu'ils y arrivent, mais pourtant ce n'est pas le chemin que ça prend. Franchement, vous êtes des voix très isolées dans ce sens-là. Qui peut imposer? Qui peut avoir suffisamment de pouvoir pour dire maintenant, voilà, place à l'interprétation, place au raisonnement?
Il y a les populations, c'est important que les populations soient conscientes de ces problèmes et comment ils ont l'histoire de ces problèmes, comme je l'ai expliqué, et pourquoi ils doivent être conscients qu'on peut refaire le travail et pourquoi il est nécessaire.
Et vous pensez que certaines populations peuvent être sensibles à ça?
Oui, je pense qu'aujourd'hui,
ça sera la dernière question,
je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui sont sensibles à cela.
On aimerait partager votre espérance. En tout cas, je renvoie les auditeurs de Radio Courtoisie à la lecture salutaire de votre livre, Radhika Kadani, Islam, quel problème, les défis de la réforme, aux éditions UP Blicher. Merci beaucoup
à
vous d'être venu en direct ce soir, et puis j'espère que nous aurons à l'avenir le plaisir de vous recevoir à nouveau.
Merci à vous.